Jodard, le 25 avril 1985.
Vous voyez tout de suite, j'espère, le problème qui se pose au point de vue de l'inspiration avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la quantité et le domaine de l'imaginaire. Et je crois que ça nous permet peut-être d'entrer un peu plus dans l'inspiration. Quand on regarde l'inspiration pour elle-même, très bien, on suit son parcours. Et c'est ça l'avantage quelquefois de regarder un autre domaine. Quand on dit que la source de l'inspiration, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. Et c'est vrai, je crois que c'est vraiment ça la source de l'inspiration. C'est l'intelligence dominant l'imaginaire. L'imaginaire est plus ou moins dominé dans l'inspiration. Il y a des inspirations qui sont purement imaginatives. Des nostalgies qu'on prend pour une inspiration. Des oignons d'Égypte, hein, c'est des nostalgies, c'est pas une inspiration. Vous avez la réminiscence de quelque chose, de très très beau, de merveilleux, vous avez vu. Vous avez été 8 jours projeté dans l'Éden et dans le paradis terrestre. C'est extraordinaire. J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui m'a fait exactement penser à ça. C'est extraordinaire. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, merveilleux. Ça reste fixé dans mon imagination. Très, très bien. J'ai rien dit. Mais intérieurement, j'ai pensé, oui, c'est ça. Projeté dans l'Éden pendant 8 jours. Alors, on en a la nostalgie. Ça peut durer assez longtemps. Et on croit que c'est une inspiration. C'est pas une inspiration. C'est le domaine de la mémoire et de l'imagination qui continue. Et si on commence à construire là-dessus, patatras, ça dégringolera, il n'y aura rien du tout. Parce que c'est le domaine de l'imaginaire et de la mémoire qui continue. L'inspiration, c'est l'intelligence présente dans l'imaginaire et qui domine l'imaginaire. Vous voyez, parce que c'est très intéressant de voir ce domaine-là. Je vous disais tout à l'heure, à propos des sensibles propres et des sensibles communs, le propre de l'artiste, c'est mettre en lumière, d'une façon très étonnante, les sensibles propres. Le grand art, c'est ça. C'est les sensibles propres. Il n'y pense pas, l'artiste. Hein, c'est le philosophe qui dit ça. L'artiste ne va pas dire, je vais mettre en lumière. L'artiste pense quand même, le peintre pense à la lumière. Il est hanté de lumière, un peintre, il est pris par ça, saisi par la lumière, la résurrection, la lumière, toute pure, toute nouvelle, c'est extraordinaire. Et c'est donc le sensible propre qui va émerger des sensibles communs. Or, l'inspiration, c'est l'intelligence s'enracinant dans l'imagination. L'imagination, c'est les sensibles communs qui dominent. Vous voyez tout le problème. Puisque l'imagination, c'est les sensibles communs. Alors comment dire que l'inspiration, c'est l'intelligence et l'imagination? Puisque l'imagination, c'est les sensibles communs. C'est la réserve des sensibles communs, les oignons d'Égypte. Quand vous rêvez aux oignons d'Égypte, je vous affirme que c'est des sensibles communs qui l'emportent sur les sensibles propres. C'est-à-dire c'est la grosseur des oignons et le nombre des oignons qui l'emportent sur la qualité de l'oignon. Tout à fait différent. Alors c'est les sensibles communs qui l'emportent sur les sensibles propres. Et toujours comme ça, l'imaginaire, la réminiscence, très curieux. C'est très curieux, du reste, si vous essayez de comprendre la réminiscence, parce que la réminiscence est faite de l'imagination et de la mémoire, c'est les deux. Et ce qui fait comprendre comment une philosophie qui repose sur la réminiscence ne peut pas aller jusqu'au bout de la qualité. Sauf si l'inspiration est présente. Donc ce n'est pas uniquement la réminiscence. Quand Platon dit que c'est la réminiscence, ce n'est pas la réminiscence, c'est l'inspiration. Parce qu'au fond, vous voyez bien que la mémoire, l'imaginaire, nous fait garder les sensibles communs. L'art consiste à mettre les sensibles communs au service des sensibles propres. Donc de retrouver dans un ordre tout à fait particulier ce que la réalité nous donne. Dans la réalité, les sensibles propres sont dans la réalité physique. Les sensibles propres sont premiers, les sensibles communs sont seconds. C'est net. La lumière de tous les matins. Dans l'imaginaire, les sensibles communs sont premiers, les sensibles propres sont seconds. Ça, domaine de la représentation, domaine de l'imaginaire. Dans l'inspiration, vous retrouvez les sensibles propres premiers, les sensibles communs seconds. Oui, l'art imite la nature. Hein. Pas si bête d'avoir dit ça. Parce que c'est ce point des sensibles propres qui reviennent premier. C'est pas une copie. C'est une reprise dans une perspective toute nouvelle de la primauté des sensibles propres sur les sensibles communs. Vous voyez ça? Je crois que c'est très important de saisir ça pour comprendre que la source de l'imagination, de l'inspiration, c'est l'intelligence lié à l'imaginaire. Alors, quand l'intelligence n'est pas assez présente dans l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? C'est l'imaginaire qui continue. Et les sensibles communs l'emportent sur les sensibles propres. Et là, vous avez une fausse inspiration. En réalité, c'est tout simplement une réminiscence. C'est pas une inspiration. C'est pas un renouveau. Chaque inspiration est un renouveau, une reprise, une recréation. Chaque fois qu'il y a l'inspiration, qu'il y a la véritable inspiration, c'est l'intelligence qui domine. Une intelligence qui va permettre cette chose étonnante de remettre les sensibles propres tout à fait dans leur place première. Les sensibles communs sont plus ou moins présents, c'est secondaire. Quelquefois même on essaie de mettre le plus possible entre parenthèses pour que les sensibles communs, les sensibles propres soient le plus en lumière. On comprend très bien ça. Mais au fond, c'est l'intelligence qui va rétablir ça. Quand l'intelligence n'est pas assez présente, une intelligence qui n'est pas du tout, hein, faisons attention, qui n'est pas du tout la raison. Non, non, l'intelligence, hein, si vous confondez intelligence et raison, vous ne comprenez plus rien du tout. Et je crois que quand on confond l'intelligence et la raison, alors on a peur de l'intelligence. Parce que l'artiste a toujours très peur de la raison. Il a peur de la logique. Il a peur de ce que c'est que le raisonnement. Un artiste n'aime pas beaucoup les raisonnements. Hein. Il ne faut pas raisonner avec les artistes. Il faut être intuitif. C'est ça, c'est l'intuition qui domine chez eux, c'est pas le raisonnement, c'est pas la logique. Alors, si on confond intelligence et raison, je comprends très bien que l'artiste ayant tellement peur de la raison, c'est le point de vue de la réminiscence, c'est le point de vue de l'imaginaire qui l'emporte. Et alors on aura un art romantique, très romantique. Vous voyez, et dans l'art très romantique, c'est l'intelligence qui manque un peu. Et on n'a pas en face d'une véritable inspiration, on n'est pas en face d'un véritable renouveau. On est en face de certaines répétitions qu'on essaie d'originer, de mettre un peu une note originale voulue pour elle-même. Quand l'inspiration n'est pas assez présente, on cherche l'originalité. Un artiste qui cherche l'originalité, c'est parce que l'intelligence n'est pas assez présente. Alors il cherche à être original, il cherche les combines possibles dans l'ordre de l'imaginaire. Vous voyez ? Et il essaie de renouveler par le point de vue des sensibles communs, ce qui ne renouvelle jamais. Alors, je crois que ça nous permet de mieux saisir ce que c'est que l'inspiration. C'est pour ça que j'y reviens. Tout à l'heure, j'y pensais en faisant le cours sur la quantité, je pensais au cours d'inspiration. Et je me suis dit, voilà, c'est très intéressant de bien comprendre quand nous disons que l'inspiration, la source de l'inspiration, c'est l'intelligence dans l'imagination, nous comprenons mieux comment l'intelligence dans l'imaginaire doit mettre en pleine lumière ce qui dans l'imaginaire est toujours second, le faire passer devant. Et c'est l'intelligence qui alors, à ce moment-là, redonne un nouvel éclat au sensible propre. Et ça fait mieux comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier entre la nature et l'art. C'est vrai qu'il y a quelque chose de semblable, puisque les sensibles propres sont premiers, et ici aussi. Quelle différence ? C'est que les sensibles propres dans l'art sont remis en lumière grâce à l'intelligence. L'art est beaucoup plus intellectuel que la nature. C'est sûr. Hein? C'est pour ça que les artistes sont si implacables et que la nature est si maternelle. C'est pas maternel, un artiste. Un artiste qui est maternel, ça va plus du tout. Il manque un peu de force. Il manque un peu de... Oui, d'intelligence, tout simplement. Il est maternel. La nature est maternelle. La nature est très maternelle. C'est pour ça que les mères ont toujours très peur que leurs fils ont une vocation d'artiste. Toujours, toujours. Parce que la mère est maternelle. Et l'artiste, lui, a son autonomie et son indépendance. Et quand le cordon ombilical n'est pas coupé, l'artiste ne peut pas être un artiste. C'est très, très curieux. Il y a quelque chose qui demeure. Parce que ça, c'est, dans la nature, c'est la matière. La matière, que dit Aristote. Quand Aristote dit que la matière est maternelle. C'est-à-dire qu'elle est enveloppante. Et elle maintient quelque chose. Elle fait que la matière, vous voyez, qui est liée directement au sensible commun, par le point de vue de la quantité, va maintenir les sensibles propres relatifs. L'art va libérer les sensibles propres par l'intelligence. C'est une libération des sensibles propres qui se fait par l'inspiration. Et l'inspiration, alors, va permettre aux sensibles propres d'avoir, justement, quelque chose d'un éclat qu'ils n'ont pas par eux-mêmes. Et c'est en ce sens-là que l'art perfectionne la nature. L'art perfectionne la nature en mettant les sensibles propres dans leur lumière propre de sensibles propres. Et en leur donnant un éclat qu'ils n'auraient pas par eux-mêmes. Et qu'ils ont par le point de vue de l'intelligence. C'est pas l'intelligence... C'est pas l'intelligence universelle, pas du tout, ça c'est la science. C'est l'intelligence liée au sensible propre. Donc toujours concret. C'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus sensible et de plus actuel, les sensibles propres, qui donne alors cet éclat. Et c'est ça le point de vue de la beauté. Vous voyez, quand on dit que c'est la splendeur de la forme, c'est la splendeur des sensibles propres, la beauté artistique. C'est la libération des sensibles propres, en les libérant sans oublier les sensibles communs, parce que quelquefois on peut aller trop loin dans la libération. Alors si vous voulez libérer les sensibles propres en les séparant complètement des sensibles communs, vous arriverez quelquefois à quelque chose qui sera qui ira trop loin. Mais c'est normal. Alors, vous voyez, ça nous fait, je crois, saisir mieux, ce que je n'avais peut-être pas assez souligné, ce qu'est l'inspiration. Oui, c'est là, on voit très bien que le domaine métaphysique sur la quantité nous aide à mieux comprendre ce que c'est que l'inspiration. Parce que l'inspiration va juste en sens inverse de la quantité. Quand la quantité l'emporte dans l'inspiration, votre inspiration n'a plus sa qualité voulue. C'est une inspiration qui est un peu quantitative. C'est la série, c'est la répétition. Parce que le domaine de la quantité, c'est la répétition. Et vous croyez qu'en répétant indéfiniment, vous arriverez à quelque chose de mieux. Ben non, vous répéterez, c'est tout. Vous vous embourberez de plus en plus et vous n'arriverez pas à cet aspect nouveau. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui va l'emporter. Et c'est là où on voit très bien que le domaine philosophique, vraiment philosophique, ne nuit pas à l'art. Parce que c'est l'intelligence. Le domaine purement logique pourrait nuire à l'artiste. Ça, la logique trop forte nuit à l'artiste. Ça, c'est sûr. Un artiste se sent pas à l'aise. Hein. Au moment où la logique a remplacé la métaphysique, on a tué l'art. Ça, c'est sûr. Tandis qu'au contraire, quand l'intelligence reste l'intelligence, au-delà du point de vue du raisonnement et de la logique, l'intelligence, elle, apporte à l'artiste quelque chose de très grand, parce qu'apporte la lumière. L'intelligence, c'est la lumière, et qui ne fait pas nombre avec le point de vue des sensibles propres. L'intelligence est à l'aise dans le domaine des sensibles propres. Elle est chez elle. Tandis que dans le domaine de la quantité, l'intelligence n'est jamais entièrement à l'aise. La raison est à l'aise. La logique est à l'aise, parce qu'elle divise. Parce qu'elle peut raisonner, elle peut penser dialectiquement. Vous voyez ? Alors je crois que ça nous aide à comprendre mieux ce que représente cette inspiration et la source de l'inspiration. C'est pour ça que je suis revenu là-dessus. La source de l'inspiration, c'est l'intelligence liée à l'imagination. Mais comprenons bien, quand nous disons ça, c'est l'intelligence qui assume l'imagination pour donner à l'imagination quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'est plus du domaine de l'imaginaire commun, qui est du domaine de l'imaginaire artistique. Et l'imaginaire artistique a une noblesse que l'imagination n'a pas, et qui lui vient de l'intelligence. Et cette noblesse, c'est justement de faire que les sensibles propres passent devant, et redeviennent parfaitement eux-mêmes. Et même plus qu'eux-mêmes, ils redécouvrent une nouvelle noblesse, une nouvelle splendeur que l'intelligence lui donne. Vous voyez ? Ça nous permettrait, si on comprend bien ça, ça nous permet de mieux comprendre le plus et le moins qui est dans l'inspiration. Parce que c'est évident qu'il y a des inspirations qui sont plus ou moins fortes. Il y a des génies, ça existe des génies dans l'ordre de l'art. Ça se voit pas tout de suite, hein. On est des génies ignorés, hein. Et le génie ignoré, c'est celui qui justement dit « Dans 50 ans, on s'apercevra que j'étais génial, mais il faut que je meure pour ça. » Et dans 50 ans, on s'apercevra. Et c'est vrai qu'il y a des génies qu'on ne découvre que beaucoup plus tard. Parce qu'ordinairement, le génie a quelque chose de prophétique. Il n'est pas compris. Et entre le génie et le fou, quelquefois, c'est pas très commode de voir, hein. Philosophiquement, c'est très facile, mais dans la réalité, c'est pas toujours commode. Vous voyez bien, le génie, c'est quand le point de vue des sensibles propres est mis en pleine lumière par l'intelligence. C'est la splendeur des sensibles propres. Ça, c'est génial. Le fou, c'est lorsque la quantité l'emporte. Alors, c'est dans l'ordre de la quantité, l'originalité et la rupture. La folie, c'est la rupture du continu. Alors ça, c'est une rupture. Et vous êtes dans le quantitatif. Donc, philosophiquement, nous pouvons très facilement, mais dans l'œuvre, ce n'est pas toujours facile à reconnaître. Hein. Où est le génie ? Où est le fou ? Une œuvre de folie, une œuvre géniale. Philosophiquement, nous voyons très nettement, c'est du reste très important de le voir philosophiquement, et de voir la rupture entre les deux. C'est le sensible propre qui est mis en pleine lumière dans une œuvre d'art. Alors, une œuvre d'art où le sensible propre est mis en pleine lumière échappe au temps. Le génie échappe au temps. Il est au-delà du temps. C'est pour ça qu'il est prophétique. Ce qui met quelque chose de sacré, quelque chose d'éternel dans une œuvre. Et une œuvre de géniale ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas. C'est pour ça que souvent il faut du temps pour découvrir le génie. Parce que c'est ce qui ne vieillit pas. Les sensibles propres ne vieillissent pas. Ils sont au-delà du temps. Vous ne pouvez pas mesurer les sensibles propres par le temps. Qu'est-ce qui se mesure ? C'est le mouvement. Et le mouvement se fonde sur le continu. Et donc il se fonde sur la quantité. Et la quantité continue. Alors là, c'est mesuré par le temps. Les œuvres qui ne sont pas géniales sont extrêmement mesurées par leur temps. Et le fou, il est toujours mesuré par le temps. Il n'est pas dans l'éternité. C'est à marée basse que ça se montre. Alors c'est justement celui qu'on voit qui est très, très enlisé. Il est entièrement enlisé, entièrement aliéné, enlisé. Alors ça, c'est le fou. Et c'est vrai que de temps en temps, on dit qu'il y a une parenté. Oui, il y a une parenté parce que ce sont les deux extrêmes. Et qu'on dit ordinairement que les deux extrêmes se touchent. Oui, c'est très vrai, mais ils sont les plus extrêmes. Et les plus extrêmes dans l'ordre de la qualité des sensibles propres et des sensibles communs. C'est là où on saisit les différences. Et on comprend très bien, puisque là nous sommes à un niveau de notre imaginaire et de l'intelligence. Le fou, c'est quand l'imaginaire l'emporte sur l'intelligence. Il est enfoui dans son imaginaire. Et il croit que son imaginaire, c'est le réel. Il a perdu complètement contact avec le réel. Alors, il est dans l'imaginaire pur. Le génie, c'est celui qui est victorieux de l'imaginaire en remettant en pleine lumière les sensibles propres. Après cette espèce d'ensevelissement, c'est ça qui est très curieux. L'imaginaire, c'est un peu le sépulcre des sensibles propres, hein. Les sensibles propres sont comme enfouis dans ce sépulcre des sensibles communs. Et c'est les sensibles communs qui l'emportent. Et les sensibles communs l'emportant, ils sont enfouis. Et alors, l'intelligence de l'inspiration redonne vie aux sensibles propres. Redonne aux sensibles propres comme un nouvel éclat. Ils ont connu, il fallait passer, il faut passer par l'imaginaire, c'est très curieux. Il faut passer par l'imaginaire. Si vous copiez directement la réalité en disant « mais oui, les sensibles propres, je les copie dans la réalité. » Oui, oui, il manque l'inspiration. C'est une copie. Alors c'est l'art qui copie. Les artistes du dimanche, ils copient exactement le nombre de fenêtres. Et alors, puis la couleur exactement, tout le nombre des feuilles, ils ont compté le nombre de feuilles. C'est merveilleux, c'est un décalque extraordinaire. Ils ont copié la nature. Ils ont eu peur du sépulcre, de l'imaginaire. C'est très vrai que ça existe, ça, cette attitude-là. Ils ont eu peur, parce qu'avec l'imaginaire, on est perdu. L'inspiration se sert de ça pour redonner le nouveau. C'est pour ça que l'inspiration a toujours quelque chose de l'ordre de la recréation. C'est une reprise radicale de tout. Dans un ordre nouveau qui est l'ordre de l'intelligence. Ah, vous voyez, c'est là où ce serait très intéressant à creuser, parce que ça nous fait découvrir de plus en plus ce que c'est que l'inspiration. La création est en vue du bien. L'art est en vue de l'expression, pas du bien. C'est ce qui explique comment les gens qui imitent la nature dans l'ordre de l'imitation et de la copie, il n'y a rien, aucune splendeur, et il n'y a plus le bien. Alors il n'y a plus qu'une copie, c'est tout dire. Ce n'est pas une photographie artistique, hein. Le photographe artistique c'est très différent justement. Le photographe artiste joue sur la lumière, et il sait que c'est par là qu'il va pouvoir rénover, qu'il va pouvoir redonner quelque chose de nouveau. C'est le propre de la photographie, hein. Il joue là-dessus. Un véritable photographe, c'est un homme qui sait le jeu de la lumière et de l'ombre. Alors, il peut jouer là-dessus. C'est autre chose. C'est pas l'art pictural, c'est quelque chose de plus limité, mais c'est quand même quelque chose de très important au point de vue mise en lumière de la lumière. Hein. Et c'est vraiment ça que doit faire le photographe quand il est un artiste. Parce qu'il saura que par le jeu de la lumière, tout est transformé. Il le mettra en pleine lumière. Tandis que le peintre, l'artiste peintre, lui, c'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est encore la lumière. Mais c'est la lumière beaucoup plus liée à un renouveau complet. Alors il doit passer par l'inspiration. L'inspiration, c'est accepter ce domaine de l'imaginaire lié à l'intelligence. Alors, dans un jugement de sagesse,
Je dirais, la nature, elle est créée par Dieu en vue du bien. L'art, l'œuvre d'art, c'est en vue de la splendeur. En vue de la splendeur. C'est la qualité sensible, c'est les sensibles propres qui sont mis pour eux-mêmes. C'est là où on dirait l'art pour l'art. Vous voyez, il faut bien le comprendre. Il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai. L'art n'est pas finalisé par autre chose que l'art. Il est finalisé par la contemplation de l'artiste. Il n'est pas finalisé par le bien. Parce que si vous mettez le bien, si vous mettez l'art en tutelle du bien, ça ne va plus. Vous avez un art éducatif. Très bien. Ça fait partie d'un art éducatif. C'est l'éducation qui se sert de l'art. Ça empoisonne l'artiste. Ça ne va plus du tout. Alors, il y a quelque chose de vrai, l'art pour l'art, parce que justement, le sensible propre se finalise pour lui-même. C'est le beau, c'est la beauté. Et la beauté, c'est ça. C'est quelque chose qui resplendit sans être relatif à quelque chose d'autre. Alors ça, c'est vraiment l'art pour l'art. Il y a quelque chose de juste là. L'art pour l'art, c'est le sensible propre qui est mis en pleine lumière pour lui-même et qui est pour la contemplation de l'homme. Les artistes doivent être des éducateurs de la contemplation. Et je crois que c'est la seule finalité qu'ils ont, des éducateurs de la contemplation. Permettre à comprendre à l'homme qu'il y a autre chose que l'utilité. Il y a la contemplation. Et que la contemplation, même au niveau artistique, ça vaut pour elle-même. Contempler une œuvre d'art, mais oui, ça vaut pour soi, ça a une valeur pour soi. C'est pas de l'ordre de l'utilité, c'est pas de l'ordre de l'efficacité, c'est autre chose. Alors là, il y a vraiment, vous voyez, dans le sens profond, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation. Mais l'artiste ne peut éduquer qu'à la contemplation. Il n'éduque pas la vertu, mais il éduque à la contemplation. C'est pour ça que les artistes ont tellement de peine d'accepter la moralisation, l'aspect religieux, ils ne peuvent accepter que la mystique. Devant un artiste, il ne faut jamais parler de morale ni de religion, il faut parler de la mystique. Alors là, ils comprennent, parce qu'ils sont éducateurs de la contemplation. Et ils ne peuvent être qu'éducateurs de la contemplation, autrement leur art est avili, est abaissé vers quelque chose qui ne va plus. Tandis qu'éducateur de la contemplation, oui, parce que la contemplation a un absolu. Et alors à ce moment-là, l'art garde toute sa valeur d'absolu. Il y a un certain absolu dans la mise en lumière des sensibles propres. Donc, vous voyez, c'est ce domaine propre de l'inspiration artistique. Alors, dans cette perspective-là, je maintiens cette perspective que nous essayons de comprendre pour comprendre comment l'intelligence va donner à ce domaine imaginaire une nouvelle noblesse, une nouvelle splendeur. Le sensible propre va émerger de ce sépulcre de l'imagination. Et l'imagination est un sépulcre. Vous commencez à comprendre alors mieux ce que nous avions dit à propos de l'inspiration, que l'inspiration regarde quelque chose du possible. Alors, voyez, c'est là la très grosse difficulté. Nos pauvres mots, hein. Nos mots sont quelque chose de toujours un petit peu univoque. Alors, le possible, il faut faire grande attention. Quand je dis que l'inspiration regarde le possible, oui, c'est un possible, mais d'une nature très particulière, parce que c'est un possible à l'intérieur des sensibles propres. C'est les sensibles propres que l'artiste va pouvoir réaliser. Donc, c'est un possible, le possible comme tel, et du côté potentiel. C'est quelque chose qui n'est pas déterminé, le possible. Or, l'idéa, le fruit de l'inspiration, c'est ce qu'il y a de plus déterminé. Et c'est là où nos pauvres mots éclatent. Je comprends très bien que l'artiste est toujours un tout petit peu ennuyé devant ce que dit le philosophe quand il parle du possible. Parce que c'est un possible parfaitement actué. Mais il demeure possible dans l'ordre de la réalisation. Alors c'est ça qu'il faut peut-être essayer de saisir. Parce que ça corrige ce que nous avions dit à propos du possible. Quand je vous disais que l'inspiration nous fait émerger vers quelque chose de l'ordre du possible, qui n'est pas le possible métaphysique, qui n'est pas le possible logique, qui est le possible artistique. Ce possible artistique, c'est un possible à l'intérieur des sensibles propres. Alors, c'est donc parfaitement actué, puisque les sensibles propres impliquent quelque chose de parfaitement actué. Sur la splendeur du sensible propre, le sensible propre regardé pour lui-même et en lui-même est parfaitement actué, il ne demande pas d'être actué par quelque chose d'autre. L'idéa, qui est le fruit de l'inspiration, l'idéa comme tel, dirige tout le travail de l'artiste. C'est donc parfaitement actué. Ce n'est pas du tout quelque chose qui demande d'être actué. Et cependant, ça demeure dans l'ordre du possible. Pourquoi ? Parce que justement, ça demande d'être incarné, réalisé. Alors, il faut bien saisir le point de vue de ce qui est en acte et ce qui demande d'être réalisé. À l'intérieur de l'idéa. À l'intérieur de l'idéa, il faut saisir comment l'idéa, fruit de l'inspiration, qui met en lumière les sensibles propres, et donc qui, dans cet ordre-là, implique quelque chose de très actué, l'artiste est très déterminé quand il est inspiré. Ça, c'est toujours très frappant de voir ça. Un artiste inspiré est toujours très déterminé. Il ne s'agit pas de lui donner une leçon. Il vous renverra promener à ce moment-là. Et il aura raison en tant qu'artiste. C'est pour ça qu'on dit que les artistes sont intransigeants. Ben, ils sont intransigeants parce qu'ils ont des idées. Et celui qui a des idées est toujours très intransigeant. Alors quand ces idées ne sont plus dans le domaine artistique, c'est très dangereux. L'artiste doit dominer la matière, très très bien. Il doit dominer la matière. Mais quand ces idées ne sont plus dans l'ordre de la matière, ils sont dans l'ordre de l'éducation, matière vivante, l'homme, alors ça devient intolérable. Jamais demander à un artiste d'être éducateur. En tant qu'artiste, en tant qu'homme, il peut être prudent. Un éducateur est prudent. Un artiste, il vit son idéa. Alors, il doit dominer la matière. Et l'artiste véritable domine totalement la matière. Il doit la dominer pleinement parce que son idéa est parfaitement actué. Sensible propre. Les sensibles communs sont toujours de l'ordre du possible. Alors, vous voyez, c'est ça qui est très délicat, c'est que le domaine de la quantité, c'est le domaine du divisible. Le domaine de l'idéa, c'est le domaine de l'indivisible, puisque c'est qualitatif. Rien n'est plus qualité que l'idéa. C'est le domaine des sensibles propres. Donc, c'est parfaitement actué. Et cependant, ça reste quelque chose qui est le domaine du possible. C'est-à-dire quelque chose qui demande d'être réalisé. Ça demande d'être réalisé par rapport à l'œuvre. Je comprends un peu ce que Maritain dit, toujours une certaine confusion, quelque chose de juste. Et ça met peut-être en lumière quelque chose de juste. Quand Maritain fait la distinction entre le domaine de l'art et le domaine de la techné. Disant la techné grecque n'est pas l'art. Je n'aime pas beaucoup cette opposition, mais je vois ce qu'il veut dire. C'est quand il veut dire que justement le domaine de l'art, c'est le domaine de l'idéa, et le domaine de l'idéa pour lui est comme séparé de la réalisation. Et il met cela pour mieux mettre en lumière comment l'idéa est parfaitement en acte. Et c'est vrai que l'idéa est parfaitement en acte. Et cependant, l'idéa possède en elle-même quelque chose qui demande d'être réalisé. Et donc, le possible. Parce que ce qui demande d'être réalisé, c'est justement le domaine du possible. Alors, comment expliquer dans l'idéa ce qui est parfaitement actuel et ce qui reste du possible. J'espère que vous voyez bien ça. Ça fait partie, vous voyez, c'est quand nous avions vu l'inspiration, nous avions dit que le domaine de l'inspiration porte toujours sur quelque chose qui est possible. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà réalisé. L'artiste ne regarde pas quelque chose qui est réalisé. Si l'artiste se met à œuvrer, c'est qu'il veut réaliser une œuvre qui est son œuvre, donc qui est nouvelle en tant qu'artiste, qui est nouvelle. Donc l'idéal, l'inspiration porte toujours sur le possible. Mais faisons attention, elle porte sur le possible à l'intérieur même de l'idéal, qui, elle, est le sensible propre dans sa splendeur. Et donc, dans son acte. Vous avez donc acte et puissance dans l'idée. Et il faut bien partager le domaine de l'acte et de la potentialité. Ce n'est pas du tout contradictoire, parce que l'idée n'est pas l'acte pur. L'idée de l'artiste, c'est toujours quelque chose de complexe. C'est un. Et c'est complexe. Ça a une unité, c'est quelque chose de très actué, parce que c'est un sensible propre, et ça demande d'être réalisé. Alors il s'agit de bien comprendre et de bien analyser ce qui, dans l'idéa, est parfaitement actué, et ce qui, dans l'idéa, demande d'être réalisé, et donc est de l'ordre du possible. J'espère que vous voyez bien. Parce que ça, c'est peut-être subtil, mais je crois que c'est très important si on veut comprendre jusqu'au bout ce que représente l'inspiration. Si nous comprenons que l'inspiration s'achève dans l'idéa, qui est le fruit de l'inspiration, et que l'idéa, fruit de l'inspiration, est justement quelque chose de complexe, qui n'est pas séparé de la réalisation, mais qui dirige la réalisation. C'est trop facile de séparer les deux, je crois que c'est encore du platonisme ça. C'est un manque de réalisme. L'idéa demande de se réaliser. Elle appelle la réalisation. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est le sensible propre qui assume les sensibles communs. Les sensibles communs, à propos de l'idéa, les sensibles communs, c'est la matière. La matière dans laquelle va se réaliser l'idéa. Et donc il faut que les sensibles propres qui sont dans l'idéa, présents dans l'idéa, assument cette matière. Et là, je crois que c'est vraiment assumé. Il faut que la matière soit malléable pour ça. Il faut que la matière soit entièrement assumée par l'idéa. Et toute l'œuvre, toute la réalisation artistique, c'est assumer la matière pour lui donner justement cette actuation que les sensibles propres peuvent seuls lui donner. Et dans la mesure même où la matière est entièrement assumée par l'idéa, qui est, elle, au niveau des sensibles propres, l'œuvre d'art sera plus ou moins géniale. Si au contraire la matière reste indéterminée dans l'ordre des sensibles communs, vous serez en présence d'une croûte. Complètement ratée. Je ne suis pas arrivé. Je suis pas arrivé, l'artiste lui-même le reconnaîtra. Et quelquefois, il pourra jouer au bluff en disant « Oui, très bien. » Et il vendra ça parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais comme il a un nom, ça se vend. Mais parce que les gens sont incapables de comprendre ce que c'est qu'une œuvre, la plupart du temps. Alors, ils regardent uniquement d'où ça vient, l'origine. C'est une œuvre de telle personne, très bien. Cette telle personne, c'est sûrement très bien. C'est sûrement très bien, ça se vend. Ça se sent très bien, alors ils regarderont ça. Mais l'artiste, lui, sait très bien qu'il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à dompter la matière. Il n'est pas arrivé à l'assumer pleinement et faire qu'elle soit parfaitement actuée. Alors à ce moment-là, c'est la victoire des sensibles communs. La matière, c'est les sensibles communs, c'est la quantité. C'est la victoire dans tous les domaines. Toutes les matières d'œuvres d'art, c'est toujours les sensibles communs. Qui demande, c'est la quantité, qui demande d'être actué par l'idée, par les sensibles propres. C'est en ce sens-là, vous voyez, que toute réalisation artistique est une bataille, une lutte. C'est le travail. Le travail implique toujours une lutte. Il faut que l'idéa soit victorieuse de cette matière. Et parce que l'idéa doit être victorieuse de cette matière, il faut comprendre que l'idéa porte en elle cette possibilité d'assumer. Alors comment traduire ça ? Pas comment de traduire. Cette capacité qu'a l'idéa de dominer. C'est une capacité de l'idéal. C'est ce qu'on dira, si vous voulez, que ce sont des idées dynamiques. Je n'aime pas beaucoup, mais ça veut exprimer ça. C'est une idée qui a en elle une capacité d'être victorieuse, de dominer. Volonté de puissance. C'est une volonté de puissance. Ça explique comment les artistes ont cette volonté de puissance. Et cette volonté de puissance qui est justement cette capacité qu'a l'idéal d'arriver à dominer pleinement l'œuvre, la matière qui doit être dominée. Et tant que la matière n'est pas dominée, l'œuvre n'est pas achevée. L'œuvre n'est jamais totalement achevée. Parce que la matière n'est jamais totalement épuisée. Jamais. Il y aura toujours quelque chose qui restera en dehors de cette domination de l'idée, de l'idéa. Donc, on comprend comment dans l'idéa, il y a acte et potentialité. Et vous voyez que l'acte est du côté de la détermination, sensible propre, et l'aspect potentiel est du côté de la domination, capacité de dominer. Et la capacité de dominer, c'est donc du côté de la cause efficiente. C'est une potentialité du côté de la cause efficiente. C'est quelque chose de très particulier, ça. C'est en ce sens-là que l'inspiration porte sur un possible dans l'ordre de la cause efficiente et quelque chose de parfaitement déterminé dans l'ordre spécifique, dans l'ordre des sensibles propres. Mais il y a les deux. Et c'est ce qui fait comprendre peut-être le caractère tout à fait particulier de l'idéa. Vous voyez, comme c'est différent du concept. Le concept, lui, est purement du côté de l'objet. Il n'a aucune domination. Tandis que l'idéa possède en elle-même une capacité de dominer. Il faut toujours mettre en parallèle, hein, si on veut comprendre au point de vue philosophique, l'idéa, le concept, le secret. Trois domaines qui sont à voir en parallèle. Le concept, le secret. C'est à développer en parallèle. Le secret, c'est l'intelligence affective. Le concept, c'est l'intelligence spéculative. Et l'idéa, c'est l'intelligence réalisatrice. Et ces trois moments parallèles, tous les trois, déterminent l'intelligence, spécifient l'intelligence. Donc, c'est une cause formelle de l'intelligence, de la capacité de l'intelligence d'être déterminée. L'intelligence est parfaitement déterminée par le concept. Le concept qui lui-même est représentant de l'objet. Le concept, c'est l'objet présent dans l'intelligence. C'est ça le concept. C'est l'objet présent dans l'intelligence, et donc qui détermine l'intelligence. Et qui détermine l'intelligence pour que l'intelligence, par là, puisse atteindre la réalité. Le secret, c'est la présence de l'ami dans l'intelligence. Et ça détermine l'intelligence. Et une intelligence affective. Et c'est en même temps une présence. Tout secret est une présence. Tandis que le concept n'est pas une présence. Le secret est une présence. Et l'idée, c'est pas une présence, c'est un appel à la réalisation. L'artiste est poussé à réaliser quelque chose. Vous voyez, il y a trois aspects très différents dans l'ordre de la spécification. L'intelligence est spécifiée par le secret, par le concept, par l'idéa. Et les trois choses doivent être vues toujours en parallèle, puisque c'est l'intelligence, mais l'intelligence dans des orientations différentes. Dans l'orientation d'une œuvre à réaliser, une intelligence dans la connaissance de la réalité, pour elle-même, la recherche de la vérité, et l'intelligence qui veut être une intelligence affective, qui veut aimer. Et le secret, c'est la présence de l'ami au plus, au plus profond de l'intelligence, qui détermine l'intelligence dans ce qu'elle a, dans son affectivité, et qui permet la présence de l'ami. Le secret, et c'est une présence affective, et c'est une présence intentionnelle de l'ami. Le secret ne pousse pas à la réalisation, puisqu'il y a le respect de l'ami. L'idée pousse au contraire à la réalisation, et le concept conduit à la vérité. Vous avez les trois aspects différents qui nous aident à comprendre, parce que c'est le nœud de l'intelligence. Les trois sont le nœud de l'intelligence. L'intelligence se noue dans le concept, l'intelligence se noue dans l'idée, l'intelligence se noue dans le secret. C'est les trois nœuds de l'intelligence. Et c'est les trois moments où l'intelligence se structure. Et trois manières dont l'intelligence se structure du côté de la réalisation, par l'idée, par le point de vue du concept et par le point de vue du secret.
Thank you.